Étude sur le livre des psaumes. L'Éternel est bon pour moi, psaume 34, un psaume de reconnaissance. Ce psaume fut composé par quelqu'un qui voulait louer Dieu pour des bienfaits particuliers. Deux sortes de littérature s'y mélangent, une section mettant l'accent sur la reconnaissance et une autre qui enseigne. Selon l'en-tête, David rédigea ce psaume qui contient quelques remarques touchantes et même frappantes au sujet des soins personnels que Dieu prodigue à ses enfants. Les pensées de ce texte sont arrangées par ordre alphabétique, chaque strophe commençant par une lettre différente, comme pour le psaume 25. Tout l'alphabet est utilisé, à l'exception de la lettre Waw. Un deuxième P est ajouté à la fin pour remplacer le Waw qui manque, pour compléter les 22 lettres. L'en-tête suggère que ce psaume fut rédigé au moment où David simula la folie devant le roi Abimélech en 1 Samuel 21.10 au 15, 1. Avec Saul à sa poursuite, David s'enfuit à Gath, en Philistie, pensant que les Philistins ne le reconnaîtraient pas et ainsi qu'il pourrait être en sécurité parmi eux pour un temps. Immédiatement démasqué, il fallait qu'il improvise, ce qu'il fit en feignant la folie, gribouillant sur les portes de la ville et laissant couler sa salive sur sa barbe. Le roi, convaincu que David était devenu fou, le chassa car il ne voulait pas de lui à Gath. David sauva sa vie par cette mascarade, mais il fallait encore qu'il échappe à Saul. Selon l'en-tête, David pensait à cette délivrance et écrivit le psaume pour remercier Dieu de sa protection. Le thème du psaume est la protection de Dieu sur ceux qui ont confiance en lui et qui le craignent. Le psalmiste loue Dieu et exhorte d'autres à se joindre à lui à cause de la manière dont Dieu s'occupe de son peuple. Ce texte inspire et encourage tout disciple de l'Éternel. David commence par une déclaration de son intention de louer Dieu toujours. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. » Que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. Vs 2 à 4. Bénir Dieu, c'est l'adorer, le remercier. Dieu nous bénit par ce qu'il nous donne, nous le bénissons par nos pensées et nos paroles adressées à lui. Les paroles de David illustrent certaines vérités de l'adoration, c'est Dieu qu'il faut adorer, il faut l'adorer continuellement, et cette adoration devrait jaillir d'un cœur plein de gratitude. Le psalmiste veut se glorifier en l'Éternel. Il ne s'agit pas de se féliciter pour ce qu'il a fait ou ce qu'il possède, mais plutôt de se rappeler que son bien le plus précieux est d'avoir choisi le Seigneur comme son Dieu. Ce témoignage constitue une bonne nouvelle pour ceux qui sont abattus par les circonstances ou par les ennemis. Dieu est un refuge pour toute personne qui le cherche. Ce que nous disons ou faisons ne peut pas rendre Dieu plus grand, mais nous pouvons parler aux autres de sa grandeur, nous pouvons le célébrer devant eux. Le but d'une telle adoration n'est pas de se sentir bien, mais de reconnaître avec eux qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Adorer l'Éternel et encourager les autres à faire de même ne suffit pas, il existe d'autres raisons pour exprimer sa gratitude envers Dieu. Il exauce nos prières, vs 5 à 8. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'arracha toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie, et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre, vs 5 à 8. Le psalmiste décrit sa propre expérience d'homme qui marche avec Dieu. Ceci n'est pas un sermon, mais plutôt un témoignage, entouré d'une multitude de terreurs, David a, dans ses prières, couru vers Dieu pour trouver un refuge. Et Dieu l'a conduit à travers la nuit sombre. Toutes les craintes de David ont été enlevées. À cause de l'aide que Dieu donne, ceux qui se confient à lui rayonnent de l'éclat résiduel de la victoire. Ils ne sont jamais déçus. Lorsqu'il émerge en triomphant d'une lutte à mort, leur visage brille avec la joie de la conquête. Pauvre fugitif sans domicile ni argent, David vient vers Dieu avec sa pétition, et Dieu l'entend. David n'a rien à offrir sauf son cœur, mais Dieu, grand roi de la terre, combat pour lui. David dit que c'est comme si un ange de l'Éternel plaçait une muraille invincible autour de lui, pour que les forces du monde ne lui fassent pas mal. Il craint l'Éternel et cette crainte lui vaut la protection du Seigneur. 2. Il satisfait tous nos besoins, vs 9 à 15. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien, vs 9 à 11. Toute personne qui doute de cette affirmation magnifique devrait avoir confiance et voir le pouvoir du Seigneur. La déclaration de David ressemble à l'expression « c'est à l'œuvre que l'on connaît l'artisan ». Pour apprendre la vérité, il faut se fier à Dieu. Il n'est pas une fabulation, mais il est réel et il agit. Selon David, tous ceux qui ont Dieu pour refuge trouvent en lui un Dieu authentique et tout-puissant. David demande à tous les véritables saints, tous ceux qui sont mis à part pour Dieu, De craindre le Seigneur et de le suivre avec révérence et amour, il satisfera alors tous leurs besoins légitimes. Les autosuffisants et les égoïstes, comme les lions de la forêt, connaîtront la pénurie, mais ceci n'arrivera jamais au véritable peuple de Dieu. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Préserve ta langue du mal, et t'élève des paroles trompeuses, écarte-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Vs 12:14-15. David se transforme à présent en pédagogue, il veut enseigner la signification de la crainte de l'Éternel. Laissez-moi vous dire, dit-il, ce qu'est respecter et obéir à Dieu convenablement. Pour vivre longtemps et avoir une bonne vie sur la terre, dit David, notre soumission à Dieu doit montrer trois caractéristiques. La première est une pureté de langage, la deuxième est la pratique du bien. Dans cette deuxième catégorie, le côté négatif est la non-violation de la loi de Dieu ou de notre conscience, le côté positif est la sincère pratique de la volonté de Dieu, l'accomplissement de nos devoirs et la vertu de la bonté. La troisième caractéristique est la poursuite de la paix. Nous devons éviter les querelles, les conflits et les guerres personnelles. La vie décrite par David produit des récompenses déjà dans ce monde. Dieu l'approuve et lui accorde sa faveur dès maintenant et dans la vie à venir. Pierre utilise la description par David de la crainte du Seigneur, pour dire à des chrétiens qui souffrent comment se comporter dans le péril, 1 Pétrus 3:10-12. Il nous protège, Vs 16:23. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Vs 16:19. David maintient constamment dans les psaumes que le juste jouit de la communion avec Dieu, alors que l'injuste en est privé. Dieu ne peut pas faire pour nous ce qu'il veut, avant que nous ne fassions ce que nous devons faire pour lui. Dieu veille sur l'homme pieux, il écoute sa prière. Dieu juge l'iniquité car elle malmène les hommes, ce qui déplaît à Dieu. Il s'y oppose et un jour il y mettra totalement fin. L'attitude de Dieu à notre égard est déterminée par notre manière de vivre. Le Seigneur est plein de tendresse. Il tend une main miséricordieuse aux justes parmi les pauvres. La vie juste n'exclut pas tout problème. À vrai dire, le fait de marcher dans la droiture nous attirera peut-être des persécutions que nous n'aurions pas connues autrement. La vie juste signifie, cependant, que nous aurons toujours Dieu avec nous dans les moments de difficulté, pour nous défendre et nous délivrer. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tout, l'Éternel le délivre. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fait mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront condamnables. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation, Vs 20:23. Par ce langage imagé, David illustre la nature entière de la protection offerte par Dieu. Bien des afflictions s'abattront sur l'homme juste, mais aucune ne surprendra Dieu ni ne surpassera sa capacité à y faire face. Il délivre le juste de toute lutte difficile. L'homme mauvais se verra éventuellement inondé par ses troubles. Le mal porte en lui la graine de sa propre destruction. Ceux qui maintiennent le mal dans leur cœur s'auto-détruiront un jour. Quelqu'un a dit, « Je préférerais être délivré de 1000 épreuves que de n'avoir qu'une seule épreuve et d'y succomber. » L'homme juste n'a pas à s'inquiéter, car il est en sûreté en Dieu. Qu'il soit obligé de faire face à 10 000 épreuves ou à une seule, il en sortira vainqueur. Dieu ne nous oubliera pas, il ne sous-estimera pas l'adversaire, il ne nous faussera pas compagnie lorsque nous avons besoin de lui. S'il est vraiment notre refuge, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Conclusion. David savait qu'il devait louer Dieu, et notre connaissance de Dieu devrait nous convaincre de la même vérité. David avait vu les réponses accordées par Dieu à ses prières, il avait été témoin de la protection de l'Éternel. Ces bénédictions généreuses de la part de Dieu avaient mis un chant ininterrompu de louanges dans le cœur et sur les lèvres du roi. David chérissait sa relation avec Dieu même plus que sa propre vie. Il se vantait de sa marche avec Dieu, et non de ses propres accomplissements. Dieu était pour lui le centre de ses pensées, pas seulement une considération passagère sans lien avec sa manière de vivre. L'essentiel pour David était d'être en Dieu et d'avoir Dieu en lui. Note 1. Une question se pose, le roi de Gath est ici appelé Abimélech, alors que Samuel l'appelle Achish. Il est possible que ce roi fût connu par les deux noms, le nom d'Abimélech étant un nom dynastique. Si tel est le cas, les deux références sont exactes.